Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Dialogue intermalien, bilan des premières journées, c'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. L'étape communale du dialogue intermalien a pris fin ce lundi. Ce forum vise, selon les autorités, à résoudre les désaccords entre les communautés. Dans toutes les communes, des propositions des sorties de crise ont été faites par les participants. Elles divergent d'une région à une autre. Mais la prolongation de la transition ainsi que le retour définitif de la paix ont été maintes fois mentionnés. Quel est donc le bilan de cette première étape, qu'est-ce qu'elle augure pour la suite du processus? Suivez ces débats pour avoir toutes les informations. Nos invités d'aujourd'hui sont Soumaïla Lalla, analyste, Khalifa Goïta, coordinateur des chefs de village du cercle de Yoroso, il sera au téléphone, Adama Traoré, président du CARSOC et membre de la commission paix et réconciliation du dialogue intermalien. Je suis Mariam Koulibaly, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, Monsieur Soumaïla Lalla, qu'est-ce que vous avez pensé de la phase communale de ce dialogue intermalien qui vient de s'achever ce lundi dernier?
Un dialogue en soi, c'est une très bonne chose quand des Maliens décident de se retrouver. Nous avons une organisation sociale qui promet ce type d'action. Quand des Maliens se retrouvent, vous avez dans toutes les communautés au Mali des mécanismes endogènes de règlement des différends, des mécanismes endogènes où on s'assoit, on s'écoute, on règle les différends, on passe à autre chose. Mais encore faudrait-il que ces mécanismes ou ces dialogues soient sincères, soient inclusifs. Je n'ai pas personnellement participé à la phase communale, je n'ai pas participé aux différentes activités en tant que telles, donc c'est de l'extérieur que je vais porter mon regard. Mm-hmm. C'est vrai que les Maliens se sont retrouvés. J'avais personnellement fondé beaucoup d'espoir au début quand le dialogue a été annoncé par le président de la transition dans une de ses allocutions aux Maliens. J'avais fondé beaucoup d'espoir et j'avais porté de mes voeux que ce dialogue ne soit pas un dialogue de plus, que ce dialogue ne soit pas un dialogue de trop, que ce dialogue puisse être le point de départ de quelque chose qui ne nous amènera plus à nous asseoir, à dialoguer pendant un long moment. Et malheureusement, au regard de la configuration et des événements qui se sont succédés ces derniers temps, personnellement, je suis resté sur ma faim, en ce sens que pour moi, l'inclusivité n'est pas au rendez-vous. Même si tout le monde a été invité, mais des actions qui ont été entreprises ça et là, notamment la mise à l'écart de certains acteurs clés, me font dire que pour dialoguer, il faut des personnes qui ont des différends.
Qui sont véritablement ces acteurs clés?
Les partis politiques, par exemple, oui. Qui, avec leur suspension, ont appelé de leur vœu leurs militants à ne pas participer aux différents processus Je trouve que les partis politiques sont pleinement dans leur rôle quand ils disent à leurs militants de ne pas participer, parce qu'une participation d'un parti politique à une activité comme un dialogue est éminemment politique pour les partis politiques. Donc, ils sont sur ce point en phase avec eux-mêmes, même si, personnellement, je le dis tout le temps, les partis politiques n'ont pas été constants depuis un certain nombre d'années, mais sur ce point précis, ils ont été constants. Vous avez d'autres acteurs, pour moi, sur le terrain qui étaient essentiels. Parce que le Mali, depuis plusieurs années, traverse une crise dont les ramifications sont incommensurables. Et aujourd'hui, vouloir discuter des problèmes du Mali sans certaines têtes, pour moi, ça me paraît mettre la charrue avant les bœufs. Mais au-delà de ces aspects aussi, comme je l'ai dit, j'avais fondé beaucoup d'espoir en ces dialogues. Et je suis dubitatif aujourd'hui en ce sens qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, toutes les configurations, je pense véritablement que ce sera un dialogue de plus qui va peut-être légitimer un certain nombre de choses. C'était la crainte de beaucoup de personnes, c'est ma crainte aussi. Et malheureusement, si c'était pour aller à ça, je pense qu'on aurait pu se contenter des recommandations des Assises nationales de la réformation. Il y a énormément de recommandations qui avaient été faites. Et si on décide de faire le bilan de ces recommandations, il n'y a peut-être pas les 20% qui ont été mis en œuvre.
On en viendra. D'ici là, nous allons aller à Yoroso avec M. Khalifa Goïta, qui est le coordinateur des chefs de village du cercle de Yoroso. M. Khalifa, comment est-ce que vous avez apprécié cette première phase des dialogues intermaliens?
Bien,
bien, je vous remercie. Et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité quand même de donner mon idée sur ce dialogue qui vient de dont la phase communale vient de s'achever.
Oui.
Ce dialogue, je crois, pour moi, ce dialogue a été le bienvenu. Un dialogue inter-malien. Bien sûr, nous écoutons, j'ai assisté à la phase communale. Tous les débats du début jusqu'à la fin. Alors bon, même si certains trouvent que ça n'a pas été inclusif, je trouve que ça a été représentatif.
Représentatif, c'est-à-dire, Monsieur Goïta.
Toutes les couches étaient représentées.
D'accord.
Toutes les corporations étaient représentées. Parce que dans une réunion de famille, ce n'est pas tout le monde qui viendra s'asseoir et puis maintenant, ce serait une cacophonie. On a choisi, selon les corporations, des représentants qui peuvent valablement représenter le. Donc, je trouve qu'il y a eu l'inclusivité. Alors, ce dialogue, sincèrement, je l'avais souhaité depuis avant aujourd'hui, qu'on donne aux Maliens eux-mêmes la parole. Qu'ils disent ce qu'ils pensent de leur pays, de la gouvernance de leur pays, et puis du bien-être pour qu'il y ait enfin la paix.
Donc c'est... Allez-y.
Pour ce dialogue, je trouve que la phase communale s'est très bien déroulée.
La phase communale s'est bien déroulée. C'est votre avis, M. Traoré?
Ok, bon, absolument, c'est mon avis. Mm-hmm. Vous savez, j'ai écouté le fils tout à l'heure. Il dit qu'il est un peu dubitatif. Bon, c'est une bonne guerre. Mm-hmm. Nous sommes dans une nation plurielle. Hein. C'est ça aussi. Que chacun dise exactement ce qu'il pense. Ici, il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas eu d'exclusion. Tout le monde a été invité à ce dialogue-là. Le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale, a eu à inviter les partis politiques d'avoir ensemble. Ils ont été invités, mais ils ont refusé de venir.
Mais est-ce que tous les partis politiques ont refusé de venir à la rencontre?
Non, pas tous les partis politiques. Mm-hmm. Ce qu'ils pensent être, ce qu'ils disent, représentatif. Mm-hmm. C'est qu'ils réagissent, au fait. Vous savez, il faut qu'on se dise une chose. Ce n'est pas un dialogue de plus. Non, loin s'en faut. On oublie qu'on vient de tourner le dos à quelque chose de précis.
Qui est ?
Qui est les accords d'Alger. Mm-hmm. Cette rencontre est la réponse directe de l'abandon total des accords d'Alger. Je suis partie prenante des accords d'Alger. J'ai été le président de la société civile qui a connu la délégation au niveau des accords d'Alger. Nous avons au niveau, sous le leadership du groupement des leaders du Mali, Madame Aïdara, Jérôme Lignoro, le cardinal et le protestant Youssouf à l'époque, qui est maintenant remplacé par Aïdara, on a produit un document. C'est moi qui ai connu ce document-là au niveau des accords d'Alger. J'ai été consultant au niveau du ministère de la Réconciliation nationale. Au titre des sociétés civiles du Mali. Et nous sommes approprié cet accord-là. Alors, aujourd'hui, l'équipe actuelle, les jeunes, compte tenu dans la pratique, ce qui s'est passé au niveau des accords, on a été unanime pour dire que ces accords-là, ce n'est pas bon pour le Mali. Car au-delà du ministère de la Constitution, je suis aujourd'hui le consultant au niveau de la Commission nationale des désarmements, des démobilisations et des réinsertions, chargé de la communication avec les rebelles. Donc, je sais de quoi je parle. Mm-hmm. J'ai dit une chose, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. J'ai été homme politique dans ce pays. Le président du collectif des partis politiques en 91, le président de l'Assemblée des partis politiques, 41 formations politiques, c'était le président de ce collectif-là, qui a conduit le pacte national étape Ségou et finalité à Mopti. C'est moi qui ai dit l'ensemble des partis politiques. Et c'est de là-bas, au bord du bateau sous-marin, et devant Amadou Tounouré et son premier ministre, j'ai dit, quand je quitte Mopti, la politique et moi, c'est terminé. Il sait de quoi il parle. Mmh. Alors, vous savez, ici, venir se mettre, certains n'ont pas venu, ce débat a été inclusif. Dans toutes les régions du Mali, les gens sont mobilisés. On n'a pas parlé de partis, on parle de Maliens. Il faut qu'on fasse la différence, hein. Avant d'être militant politique, tu es d'abord citoyen malien. On s'attend aux citoyens. Venez vous parler. Venez dire ce que vous pensez les uns des autres. Qu'est-ce qu'il y a comme débat? Qu'est-ce qu'il y a comme fracture? Qu'est-ce qu'il y a comme différent? Sans langue de bois. Parlez. Nous serons à l'écoute. Ça, c'est ceux qui ont initié le dialogue. Ils référencent le président de la transition actuelle. Alors, c'est pour dire que vraiment, il faut qu'on ramène à une dimension plus simple. On voit l'engouement que ça avait dans toutes les régions du Mali. Dans toutes les régions. Les gens ont répondu. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses dites. En ce moment, on est en train de faire la compilation au niveau, n'est-ce pas, du CCB. Je suis membre, n'est-ce pas, du commissier. Je suis membre du comité intermalien. Je suis membre de la thématique économie et développement durable. Donc ça veut dire qu'au fait, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pleinement. Et mon sentiment est que vraiment, ce dialogue-là a été des bienvenus. Mais il faut que les gens se rendent compte que c'est pour donner la réponse à quelque chose. On a abandonné les accords d'Alger. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? S'asseoir, se regarder? Non. On dit, bon, maintenant, on laisse l'accord. On laisse l'Algérie, on laisse la France, on laisse tout le monde. Venons les Maliens. Parlons entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas besoin des forces africaines ou états africaines pour se parler. Oublions tout ceci. Venez en Malien, dans toutes les communes, dans toutes les régions, qu'on se parle, qu'on se regarde, qu'on dit ce qui est. Et c'est ce qui s'est passé. Alors on vient de terminer la phase communale. Il y a le comité central de centralisation des résultats.
Après, on va parler du travail du comité. Voilà,
du travail
comité.
Qu'ils sont en train de faire. Oui. Donc, j'ai dit vraiment, alors, contrairement à mon au fiston, oui. Évidemment, je sais que parler politique, mm-hmm. ça me met mal à l'aise. Mm-hmm. Ça me met très mal à l'aise. 30 ans. Quel résultat? 30 ans durant.
On va voilà. Revenir à vous, Monsieur Traoré. D'ici Merci. Là, nous allons donner la parole à Monsieur Ela. Monsieur Ela, votre co-débatteur vient d'évoquer un point. Il vient de dire que nous venons de tourner le dos à l'accord d'Alger. Cela change-t-il votre opinion par rapport à l'organisation de ce dialogue intermalien?
Absolument pas, absolument pas. Comme mon père l'a dit, il a un très beau parcours, je le confirme, mais les appréciations sont forcément plurielles. Au Mali, de 91 à aujourd'hui, si vous faites le compte des forats, des concertations, des assises, des rencontres, des états généraux qui ont été organisés, c'est toute une panoplie. Et toutes ces activités ont mobilisé du monde. Toutes ces activités, il n'y a pas une seule activité qui est allée dans ce sens-là, qui n'a pas créé de l'engouement. Les Maliens se sont, dans leur grande majorité, mobilisés pour aller dire ce qu'ils ont à dire. Mais de 91 à maintenant, et personnellement, je pense que la seule rencontre intermalienne qui a vraiment pris et qui a vraiment donné du sens, c'était les conférences de 91. Après cette conférence de 91, je pense que toutes les autres rencontres, les forats, les assises et autres, ont été peu ou prou orientées d'une manière ou d'une autre. Mais les Maliens ont toujours été mobilisés, sont toujours venus donner leur point de vue. À quel prix? De 91 pratiquement à aujourd'hui, toutes les rencontres, les recommandations, les conclusions de toutes les rencontres sont à peut-être à 80% restées lettres mortes. On rassemble les Maliens parce qu'on s'est dit qu'il y a un malaise, il y a une crise. On les rassemble, chacun vient donner son point de vue, mais en termes de mise en œuvre, il n'y a absolument rien. Et si on doit faire le bilan de ce qui a été fait avant ce dialogue intermalien, il y a eu les assises nationales de la refondation qui, comme je l'ai dit, a donné une certaine légitimité à cette transition. Et partant là, si on décide de faire le bilan de ces assises nationales de la refondation, le bilan, il n'est pas fameux en termes de mise en œuvre des recommandations. Il y a un comité qui a été mis en place qui est directement rattaché à la présidence. Ce comité a fait quel travail? Je pense qu'on aurait dû faire l'audit, le bilan du travail de ce comité-là avant d'aller vers ce dialogue intermalien. Pour dire que, dès le départ, je l'ai dit, aller au dialogue, c'est une très bonne chose. C'est une valeur endogène qu'on a au Mali. Et peu importe les problèmes, quand les Maliens s'asseyent, s'expliquent, on trouve une solution. Mais encore faudrait-il que ce soit sincère. Quand vous suspendez les activités des partis politiques à la veille d'un événement aussi majeur que le dialogue intermalien, vous leur coupez l'herbe sur les pieds, vous ne leur laissez d'autre choix que de refuser de venir dire ce qu'ils ont.
Votre co-débatteur, M. Goïta, lui, il dit que la rencontre a été participative.
Participatif, oui, on aura beau tourner, le dialogue est politique, on aura beau tourner, c'est les politiques après qui seront appelés à mettre en œuvre les recommandations de ce dialogue. Aujourd'hui, les autorités de transition qui ont la charge de conduire la destinée de ces pays, les jours où ils vont compétir comme tout le monde, ils seront considérés comme des politiques. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est des activités politiques et c'est les politiques qui sont amenés à conduire la destinée de ces pays. Les citoyens s'expriment. Et c'est les politiques qui sont chargées de la mise en œuvre. Donc, quand vous excluez ces politiques aujourd'hui, quand vous excluez des acteurs qui sont quelque peu, on va dire, indispensables à ces processus-là, qui doivent se l'approprier, vous créez une situation qui va faire qu'à posteriori, ces politiques-là ne vont pas donner de légitimité à tout ce qui a été dit parce qu'ils n'ont pas été associés. Et là, ça peut poser problème dans les années à venir.
Alors, M. Goïta, au niveau du cercle de Yoroso, quelles ont été les propositions faites, les propositions phares faites par les panélistes?
Les propositions étaient nombreuses.
Mais les plus importants, on va dire.
Voilà, c'est ça. Donc, nous avons parlé de la réconciliation, du pardon, et le dialogue entre Maliens, comme on vient de l'initier. Et en termes de gouvernance, nous avons surtout, nous nous sommes appesantis sur l'impunité dans ce pays-là. Parce que, enfin, madame, je ne sais même plus ce que veulent les Maliens. Ça veut dire, si je dis les Maliens, je veux parler des politiciens. Ça veut dire qu'il y a deux langages. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire.
Alors,
ce qu'on revendique là, ce qu'on revendique, les élections, le retour à une situation constitutionnelle. Mais l'autre, le co-débatteur vient de le dire, ce sont les politiciens qui vont gérer ceci. C'est pourquoi on les avait tous appelés, comme l'autre l'a dit. Mais si vous refusez de participer à quelque chose qui vous concerne directement, je crois que vous ne pouvez que vous en vouloir à vous-même. Alors, nous avons parlé de cette transition. Nous avons dit qu'il ne faudrait pas que la transition la traîne davantage. Parce qu'il y a eu assez d'habitudes qui se sont créées. Il ne faudrait pas qu'on en ajoute. Donc, il faudrait un court temps, même si alors bon, on doit prolonger, que cela ne dépasse pas un certain temps, le minimum possible. Alors, nous avons parlé des jeunes et des femmes. Les jeunes, l'employabilité, et par là, ce qui parle d'emploi des jeunes, il faudrait une corrélation entre la formation et l'emploi. Parce que nous avons trouvé que une grande partie de cette crise-là vient aussi du sous-emploi des jeunes. Si on dit jeunes, il ne s'agit pas seulement des sous-diplômés, il y a les paysans aussi. Alors, il faudrait songer à ceci. Donc, voici en gros les points sur lesquels nous nous sommes appesantis au cours de ce dialogue.
Les propositions faites par les populations de Yoroso, vous venez de l'entendre, M. Traoré. À Bamako, est-ce qu'il y a eu des propositions qui rejoignent un peu les propositions faites par les panélistes de Yoroso?
Oui, on est en train de faire la compilation en ce moment-là. Comme je dis, le accord vient de terminer. Maintenant, il y a la commission centrale, une commission spéciale de centralisation des résultats. On est en plein travaux en ce moment-là. Donc, je ne vais pas un peu dévancer.
Oui.
Alors, je reste un peu dans l'optique de la viabilité de cette rencontre-là, de cette initiative de dialogue, où je suis en contrario vraiment avec mon fiston.
Oui.
Parce que finalement, il faut qu'on se dise les choses. Un parti politique, c'est quoi? Vous voulez mettre la vie d'une nation entre les mains d'un homme politique? Mais il n'est rien du tout. Excusez-moi.
On va mesurer un peu
le propos. Il n'est rien du tout.
Oui.
Je suis homme politique. Il n'est rien du tout. On dit la démocratie, ça, c'est du peuple. Par le peuple. Et pour le peuple. C'est le peuple qui est au centre de tout. Un groupe d'hommes, c'est ça pour dire qu'on a un projet de société qu'on va soumettre à la population. Si ça vous convient, vous allez nous confier votre destinée. Ça ne veut pas dire que je ne viens pas. Mais reste chez toi. Si tu as l'ambition de diriger un pays, en aucune façon, tu ne dois pas pouvoir refuser une rencontre. La transition a suspendu les activités politiques, pas les partis politiques. Il a sur soi à toute activité politique. Comme on l'a vu partout ailleurs au monde, partout ailleurs au monde. Alors maintenant, on dit en tant que citoyen, avant d'être en politique, tu es citoyen d'abord. Viens chez toi, viens avec ta population, écoute ta population, écoute ton peuple, dis-leur ce que tu veux, et le cas te transmet ce qu'ils veulent, qu'on puisse maintenant, une fois pour toutes, nous parler nous-mêmes, entre nous, sans intermédiaire, sans interférence. C'est là le fond de mon débat. Je ne suis pas dans un confort politique. Parce que c'est homme politique. Hein. Mais il a dit, de 91 à maintenant, on a fait quoi? Le débat de la conférence nationale, c'était sur mes épaules à moi. Tout le monde le dira, on m'a dit. Le pacte national, c'est le père du pacte national. Si c'est bon, moi, il n'y a pas eu de pacte national au Mali. En 91, on était encore en pleine guerre avec la rébellion. C'est moi qui ai motivé le pacte. Avec Omar Tontouré, au niveau de la gouvernance nationale. Parce que j'étais le président du collectif des partis politiques du Mali, y compris tous les grands partis qui vont adhérer, tous. J'étais le président, moi, de tous les partis politiques. Mais au sortir, il l'a dit, il y a eu combien de fora? Il y a eu combien de rencontres? Mais ne faites pas d'illusion, les partis n'ont pas de militants. Avec tout ce qu'il y a comme débat, c'est effroyable. Alpha a été élu à 18%. Taux national. 18%, c'est unique dans le monde. Avec tout ce qu'on a vu, avec tous ces débats. Mais après, a-t-on jamais atteint 42 ou 43% de taux de participation? Mais où sont ces militaires-là? Sur aujourd'hui, le Mali fait 26 750 000 habitants. Et lui, c'est le premier de données, ça se tient. On avait 26 750 000 habitants aujourd'hui.
22 millions
26 750 000 habitants.
Non, 22 millions. Selon les derniers RPI.
Moi, je parle de 26, ne t'en fais pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a encore des gens qui n'ont même pas de date de naissance. Nous, on est dans toute la commune. On est dans toutes les familles. Ce que nous avons entre les mains, c'est différent de ce que les gens ont. Il y a des enfants qui n'ont même pas de date de naissance. Ils ne sont même pas enregistrés. Quand on dit, je ne parle pas dans le vide. C'est ça ce que je dis, moi. On a plus de 26 millions d'habitants au Mali. Alors, si on revient à ces 22 millions d'habitants, aux dernières élections, n'est-ce pas, de Amadou Tontouré, officiel, il y a eu le taux de participation. C'était quoi le taux de participation? On a pu récemment seulement 6 millions et quelques. Et sur 6 millions et 36%. C'est quoi? Et l'ensemble des partis politiques étaient derrière Amadou. Amadou le président, c'est tout le parti politique, Adima, URD, tout le monde était avec Amadou. Pour 36% sur 20 et quelques millions d'habitants, vous avez quoi? Non. Je veux qu'on sorte de ce débat politique. Qu'on oublie cette affaire politique. Qu'on revient malien. Ils n'ont pas parlé de politique, ils ont dit les entre Maliens. Tu es Malien avant tout, avant d'être politique, là. Tu aimes ta région, tu aimes ton terroir. On dit, nous y allons pour les écouter. Venez avec nous. Tu dis, moi, je ne viens pas. Alors, après, tu te plains? Non, le peuple n'a pas exclu. Le peuple n'a dit qu'ils ne viennent pas. Je répète, le ministre d'État a fait une correspondance qui a été au plus grand. Enfin, il y a 293 partis. Vous savez, 293, on sait ce que ça vaut. Ils ont pris les plus représentatives à qui ils ont envoyé les deux correspondances. Pas les 293, pas les des problèmes de grains. On ne sait pas, de 20 types, on va se. Bref, 293 partis pour un pays. Le Mali, sont sérieux. Donc, je veux dire, fiston, sortons du débat politique. Je ne sais pas te convaincre, mais te dire simplement que l'avenir du Somalie demain, là, c'est sur vos épaules à vous, jeunes. Soyez appréciés. Soyez à l'écoute. Ne refusez jamais une table. Quitte à venir dire en face de tout le monde ce que tu penses. Je ne suis pas d'accord. Ok, je préfère ça. Que de jouer à la chaise vide. C'est ce que les partis ont fait. C'est là où je le déplore. Sinon, ceux qui sont là, ils le savent. Ils connaissent ma position politique. Ils savent que de tout temps, je suis avec les partis politiques. Ils le savent de tout temps. Mais cette fois-ci, il leur a dit non. Attention, vous exagérez là. Nous ne sommes pas, on n'a rien. On n'a rien, on n'a personne. Il ne faut pas de religion. Et nos militaires, quels militaires, ils ne partent pas. Ils n'ont qu'à aller voir dans la région. Les principaux membres de l'RPM ont démissionné à Gouvernement. On dit, bon, c'est vrai, nous, on n'est même pas dans les partis politiques. C'est-à-dire, voilà, j'ai une correspondance à DCAE. C'est sur la table du président. Il dit, de grâce, ne sortez pas. C'est pas fait pour ça. On veut qu'on se parle. C'est pas le moment, c'est pas de dégager. Non, c'est pas ce niveau. On se comprend mal. Ce monsieur, excusez-moi, le président de la transition, il a eu l'idée. C'est pas un fois en plus. Je dis, on a lu entre les lignes les accords d'Alger. Si vous voyez, moi, en tant que communicateur, au niveau de la Commission nationale des DDR, en face des rebelles, je suis tous les jours, n'est-ce pas, entre Kidal. Moi, je suis au désert. C'est pas en ville, moi, je parle dans le ville ici. Tout le temps là-bas sur le terrain. De tout le temps. Dans le désert. Avec la soif. Donc, moi, j'y vis les réalités. Il faut qu'on comprenne que ce pays, à un moment donné, qu'on revient à la dimension malienne. Il a dit, le débat du Mali, c'est vraiment l'arbre à parable. On se parle. On se regarde. Mais du fond du cœur, on dit ce qui est. Donc ce dialogue-là, c'est ce sens-là qui vous donne ce dialogue-là. Pas autre chose. Hein. C'est uniquement que les Maliens se parlent entre eux. Qu'on voit qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette zone-là. Problème au point de vue... Pas seulement des querelles, non, c'est pas seulement des fractures, mais un problème en termes de développement. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour que vous puissiez effectivement vivre sainement. On doit atteindre vers le bien-être. Non, mais je peux mieux le mieux-être, non, même le plus-être du Malien. Pour y arriver, faut-il se parler, faut-il communiquer? C'est ça le sens qu'on a voulu donner à ce dialogue-là. Il ne s'agit pas d'un dialogue, un forum en plus. Moi, j'ai assisté à tous les forums du Mali. Il n'y a pas un seul forum où je n'ai pas été un partie prenante. Il n'y en a pas un seul.
Donc, quelle est la particularité cette fois-ci, de ce forum?
Il y a un comité de pilotage, n'est-ce pas, de dialogue entre les Maliens. Ce comité de pilotage regroupe près de 160 personnalités du Mali, de toutes les tendances possibles. Ils ont été mandatés par le président, la transition. Ces 60 personnes se sont réunies. On a fait les thèmes de référence du dialogue. Pendant un mois, on a travaillé sur les thèmes de référence. Et ces thèmes de référence, maintenant, on doit maintenant les élever au niveau communal, au niveau régional et au niveau national. Maintenant, on vient de terminer seulement la phase communal. Les communes se sont parlé. Ils se sont parlé. C'est le contraire, là. Excusez-moi, donc il ne serait pas honnête. Les communes se sont parlé. il y a des gens qui ont le courage de venir. Plein de partis politiques sont là, mais ils ont dit, bon, maintenant, en rentrant dans la salle, nous mettons, n'est-ce pas, la voix du parti politique, on vient en citoyen. Pas de problème. Mais la couleur politique, c'est quoi d'autre? On dit, non, laisse politique. Oui, d'accord, je ne suis pas politique, je suis citoyen, je vais parler. Mais tu viens. Donc, prenons l'aspect politique pour dire que aucun parti n'a été exclu. On a suspendu les activités politiques, et ça, c'est normal.
Nous allons donner la parole à Michel, là, pour qu'il puisse réagir. Je voudrais poser la prochaine question.
Justement, dans l'absolu, ce que mon père dit, dans l'absolu, ce serait parfait. Mais sauf que nous ne sommes pas dans l'absolu.
Donc, vous n'êtes pas optimiste.
Je ne suis pas du tout optimiste, encore une fois. Je l'ai dit pour plusieurs raisons. Il y a tellement de paradoxes, tellement de choses qui constituent des oxymores pour moi, quand vous suivez l'évolution de l'actualité et tout. Pourquoi, quand il s'est agi de créer l'AES, les Maliens n'ont pas été consultés? Pourquoi, quand il s'est agi de quitter la CEDEAO, qui est quelque chose d'extrêmement grave, qui engage les Maliens sur beaucoup de points, beaucoup de Maliens n'étaient pas d'accord, certains étaient d'accord, pourquoi les Maliens n'ont pas été consultés sur la sortie de la CEDEAO? Pourquoi les Maliens n'ont pas été consultés sur un certain nombre de décisions? La fin de l'accord d'Alger, la mise en œuvre de l'accord d'Alger, quand on sait que les Maliens avaient préconisé plutôt, lors des assises, une relecture, une révision. Pourquoi aller vers un dialogue intermalien quand la transition de façon légale doit prendre fin? Pourquoi préparer un dialogue entre Maliens à ce moment-là? J'avais personnellement placé beaucoup d'ambition sur ce dialogue-là. J'avais porté au départ un regard très positif sur ce dialogue, mais au regard de l'évolution de la situation, de l'actualité, des événements. Aujourd'hui, je suis très sceptique quant à la sincérité de ces dialogues. Quand mon père dit que le dialogue, l'aspect politique ne doit pas être pris en compte, le dialogue, il est éminemment politique, encore une fois. Il est éminemment politique et un politique, quand il vient, il ne vient jamais avec la casquette des citoyens. Quand il doit venir, il vient avec la casquette du politique, avec la casquette de son idéal politique et avec la casquette de sa formation politique. C'est en cela que le politique verse son essence dans le dialogue. Si à la veille de ce même dialogue, parce que les politiques ont demandé l'organisation des élections, qui était très légitime au regard des engagements que la transition elle-même avait pris, quand on suspend leur activité, c'est de bonne guerre aujourd'hui que ces politiques refusent d'aller au dialogue. Je ne suis pas politique. Moi, je ne suis pas politique. Je ne vis pas de la politique. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. C'est ma lecture de la situation. Et aujourd'hui, quand vous allez à ces dialogues-là pour que les Maliens se parlent entre eux, encore une fois, dans l'absolu, c'est une très bonne chose. Mais moi, je reste convaincu que la seule chose qui sera retenue à la fin de ces dialogues, c'est la prorogation de cette transition qui va légitimer encore un certain nombre de choses.
Alors, cela fait partie des recommandations faites par certaines régions, notamment la région de Kidal. Aussi, parmi les recommandations qu'on a eues au niveau du cercle de Bafoulabé, il y a aussi la réduction du nombre de partis politiques en 5. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est une fausse bonne idée. On prend souvent l'exemple sur le Sénégal. Au Sénégal, il y a plus de 300 partis. En Côte d'Ivoire, il y a pratiquement 200 partis. Au Cameroun, il y a plus de 300 partis. Ce n'est pas le nombre, au fait, de partis politiques qui importe le plus. C'est l'idéologie portée par des partis politiques. Au Mali, vous avez à peu près 297 partis politiques aujourd'hui. Sur les 297 partis politiques, quels sont les partis politiques les plus dynamiques? Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a lieu. Il suffit juste de revoir les cadres légaux, les cadres substantifs, et faire en sorte que ces cadres-là soient suivis d'effet pour que la réduction se fasse d'elle-même. La loi autorise les citoyens à se mettre ensemble et à créer des partis politiques. Ça, c'est une disposition constitutionnelle. Et on ne peut pas revenir sur ça. Je pense que ce type de recommandations ne peuvent pas être traduites dans les faits, à moins qu'on révise la Constitution. Il y a cette liberté qui est donnée aux citoyens de se constituer en parti politique. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre des exigences. Quand vous créez un parti politique, il faut, sur peut-être un certain nombre d'années, avoir des bases ou des cellules, comment ils appellent ça, les partis, des comités, dans pratiquement un certain nombre de circonscriptions. Ça, ce serait déjà une bonne chose. Et si cette exigence est suivie, je pense que beaucoup de partis vont tomber parce qu'ils ne seront pas en mesure d'avoir des circonscriptions, des comités actifs dans un certain nombre de circonscriptions. Avoir un certain nombre de militants qui paient régulièrement leurs cotisations, et avoir un plan de formation annuel des militants financé par les partis politiques. Je pense qu'à partir de la définition d'un certain nombre de critères, on peut faire tomber beaucoup de partis politiques. Et si au bout de 2-3 exercices, un parti politique n'arrive pas à se conformer à ce type d'exigences, le parti est tout de suite dissous. C'est, on peut intégrer dans les corpus juridiques ce type de propositions qui, de façon continue, va réduire le nombre de partis politiques qui ne sont pas à même de créer un certain dynamisme auprès des populations.
Alors, Monsieur Goïta, vous, dans la région de Yoroso, est-ce que vous pensez que toutes ces recommandations sont réalisables?
Ces recommandations sont réalisables.
Comment? Qu'est-ce qu'il faut?
C'est réalisable en ce qui concerne les partis politiques. Alors, nous nous sommes beaucoup appesantis sur ça, et puis ce qu'il vient de dire tout de suite là, alors il faudrait des critères pour la survie de certains partis. Ça quoi, plus de 200 partis, c'est trop. Et nous en avons qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont pas de territoire, et bon, les critères définis, ils ne les remplissent pas. Comme il vient de le dire, si on contrôle tout ceci, beaucoup de partis vont tomber. Beaucoup de partis vont tomber. Alors donc, chez nous ici, nous trouvons que réellement, le pléthore de partis est un handicap, même pour notre paix. Alors nous avons suggéré de diminuer ce nombre-là, en suivant les critères établis par la charte, dans la charte des partis politiques. Parce que vous voyez, si, par exemple, il y a trop de techniciens sur un mur, trop de maçons sur un même mur, le mur n'avancera pas. Alors, il faudrait déqualifier pour que ce mur soit atteint une certaine hauteur. Alors, donc, maintenant, ces partis politiques, il faudrait un critère de choix de vitalité pour ces partis, pour qu'on les laisse continuer. Bien sûr, en 91, on avait dit le multipartisme intégral. Mais nous voyons ce que là où cette intégralité nous a conduit, et aussi beaucoup de ces partis ne pensent pas maliens, ils pensent aux tribus. Parce que, comme on le dit en Bamara, hein, alors donc, c'est pourquoi nous disons de faire un choix judicieux et puis d'éviter ces partis politiques.
Alors la prochaine étape est régionale. Comment tout cela s'organise au niveau du cercle de Yoroso?
La régionale.
Oui.
Oui. La régionale a été convoquée. Bon, il y a les rapporteurs qu'on avait désignés par commune. Ces rapporteurs vont se retrouver au niveau du jeu de Koutiala. Et maintenant, c'est là-bas où il y aura la compilation.
Monsieur Traoré, nous acheminons vers la fin de ces débats. Nous sommes pratiquement à 5 minutes de la fin. Okay. Maintenant, la prochaine étape, c'est la phase régionale. Comment tout cela s'organise au niveau de Bamako et au niveau national?
Bon, je crois que les documents de l'OIA sont... Hein, je viens de la salle commencer avec quelques documents là-dessus par rapport aux activités proprement dites. Ici, nous savons que au niveau de... du comité de centralisation, parce qu'on dit qu'il y a un comité spécial de centralisation des documents de dialogue. Maintenant, nous sommes en train de récupérer toutes les recommandations venues de toutes les communes, et maintenant, on les centralise. Le SPA va commencer du 22 au 24, ici à Bamako, pour rassembler tout ce qui vient de toutes les communes et le district de Bamako. Et à partir du 24, et nous allons confiner tout ça dans un document qu'on prépare maintenant les assises nationales, au niveau national, qui va commencer à partir du 6 mai prochain. Donc, à l'heure actuelle, on est en train de recevoir, n'est-ce pas, les différentes propositions des régions, des deux communes. Je pense qu'aujourd'hui, sûrement, on va en finir. d'ici demain, on finira avec ça. Et le 24, donc, on va pouvoir donner un document bien précis, tout compilé, et tout ce qui a été dit dans toutes les communes. Donc la région maintenant va produire son document. Ce document sera produit le 24 mai prochain.
Donc quel bilan dressez-vous de cette phase communale qui s'est achevée ce lundi ?
Comme je le dis, pour ceux qui viennent comme nouvelles, toutes les régions, je veux dire toutes les communes, ont répondu massivement. Et ils ont produit des documents qu'ils ont ensemble appréciés. Vous savez, on peut pas faire de mal sans casser des œufs. L'unanimité n'a jamais existé dans le monde. Ça n'a jamais existé. L'unanimité, ça n'a jamais existé. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui ne sont pas contents. Ça, c'est normal. Bon, c'est par réaction, par rapport à mon fiston. Il a des objectivités, je sais. Mais mon débat, c'est de contrarier. Afin, n'est-ce pas, de faire sortir que c'est un jeune qui est là, en face de moi. Peut-être qu'après, demain, on doit se retrouver. Parce que, comme on dit à Mamara, quoi, toi, Nanda, que tu toi, Da. Un couillé à ma couillé avec autre dauphin, peut-être la musique au toit d'Allah. On dit, c'est quoi, je le taquine un peu pour qu'il sorte un peu l'histoire de ses gongs. Mais en réalité, vous savez, ce qui est là est nouveau. Nous avons fait les assises nationales. On a fait des recommandations au niveau des assises là. Tout ce qu'on donne comme référence, c'est dommage, on n'a pas trop de temps à parler des partis politiques. Alors, j'ai simplement résumé pour qu'aujourd'hui, ce dialogue intermalien, il n'est pas politique, il est uniquement intermalien. C'est le peuple qui doit parler. C'est par rapport à ça que j'ai voulu donner une flèche pour dire que, vous savez, les partis, quand tu es homme politique, tu veux le bien de ton pays. On dit, bon, laisse l'aspect politique. Ok, je viens. Mais je viendrai dire, moi, ce que je n'ai pas comme politique. En face. Mon accord, je ne suis pas d'accord, je le dirai en face. Je ne vais pas me deviner. C'est là où je reproche le parti politique.
Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous Merci. Allons donner la parole à M. Ella. M. Ella, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez? Vous êtes un peu dubitatif par rapport au dialogue intermalien. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une sortie des crises au Mali?
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les Maliens se retrouvent. Il faut un dialogue sincère et vraiment inclusif. Comme je l'ai dit, ce qui se passe au Mali, c'est incommensurable. Le fossé est trop profond, les Maliens sont très divisés et on a l'habitude chez nous depuis très longtemps de déplacer les problèmes au lieu d'aller vers des solutions définitives. De déplacement à déplacement, on revit les mêmes cycles. Et je dis que nous sommes l'un des rares peuples ces derniers temps à ne pas apprendre de ses erreurs, à ne pas apprendre des échecs. Et aujourd'hui, je pense que véritablement, il faut une dynamique qui puisse nous sortir de tout ça. Et cette dynamique doit forcément être sincère et inclusive.
Sincère et inclusive. C'est sur ces mots de M. Soumaïla là que nous référons ce débat dont le thème portait sur le dialogue intermalien, bilan des premières journées. Nos invités, comme je le disais, étaient Soumaïla là, analyste Khalifa Goïta, coordinateur des chefs de village du Cercle de Yoroso, Adama Traoré, président du CARSOC. Il est membre aussi de la commission intermalienne. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission réalisée par Sekou Gadjigo. La partie technique était assurée par Adiara Toutraoré et Salim Diouara. Merci et à demain.